Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet particulièrement important, c'est celui de l'éthique dans le cadre de la coopération pour le système de santé, et plus précisément du point de vue des agents de santé pour Madagascar. Alors pourquoi le choix de ce thème ? D'abord parce que les paramètres politico-économiques sont tels que le système de santé à Madagascar est largement tributaire de l'aide extérieure. Ensuite, face à la multitude des intervenants externes, il est légitime de se demander si les acteurs en santé ont eu le recul nécessaire pour définir eux-mêmes ce qu'ils attendent d'une coopération respectueuse de l'éthique. Et enfin, les préoccupations éthiques sont souvent reléguées au deuxième plan, au profit des objectifs de résultats quantitatifs, l'éthique elle-même étant finalement un concept mal compris par beaucoup. Nous essaierons donc de répondre à deux questions fondamentales. Qu'est-ce qu'une coopération tenant compte de l'éthique pour les acteurs de santé? Et quels défis pour lever les obstacles à la réalisation d'une coopération respectueuse de l'éthique? Et pour commencer, il va falloir situer ce thème de l'éthique dans son contexte. Et ce contexte couvre à la fois les origines du système de soins Madagascar, le modèle de système de santé adopté par le pays, et le tableau des acteurs de la coopération en santé. Et pour ne pas oublier l'histoire, il faut se rappeler que le système de soins à Madagascar est indissociable de l'intervention extérieure, en commençant par la destruction par le feu, en 1868, de l'idole de la médecine malgache, appelée Rama Avai, avec l'arrivée de la Norwegian Mission Society, qui marquera l'établissement du christianisme, puis en passant par la création durant la même année du premier hôpital. Ces mêmes missionnaires fondent, durant cette période précoloniale, un autre hôpital, celui de Swartnagin, qui sera rapidement transformé en hôpital militaire au tout début de la colonisation du pays par la France. La formation des médecins, de son côté, a été menée successivement par des missionnaires norvégiens avant la colonisation, puis par des initiatives coloniales à partir de 1897, le but étant de former, selon le général Galeni, la cheville ouvrière de l'assistance médicale. L'indépendance est officiellement proclamée en 1960. Deux écoles parallèles de médecine sont alors en place, celle de Befelatan, qui date de l'époque coloniale et qui est maintenue, et une école dite École nationale de médecine, permettant aux étudiants de poursuivre leur cursus à la faculté de médecine de Marseille. On assiste alors à un enseignement en médecine à deux vitesses, d'un côté une formation datant de l'époque coloniale, pour une médecine qualifiée d'indigène, destinée aux médecins pour la campagne malgache, et de l'autre côté, une formation à l'université Charles de Gaulle du campus d'Akatsu, qualifiée de formation réservée à l'élite et la ville. Les premières tensions à l'origine de la révolution de mai 1972 y trouvent leur origine et vont se répandre comme une tache d'huile sur d'autres revendications concernant les méthodes d'enseignement général du pays. En ce qui concerne le modèle de système de santé, à l'image des pays africains avec un passé colonial, Madagascar a adopté une structure pyramidale à quatre niveaux. Le niveau central, représentant le sommet de la pyramide, responsable de la coordination générale des orientations politiques et stratégiques. Le niveau régional, chargé de la planification des programmes sanitaires et de leur suivi et évaluation. Le niveau périphérique ou de district, en charge de la coordination des centres de santé de base et des centres hospitaliers de référence de district, et le niveau communautaire, représentant la base de la pyramide, et concentre tout ce qui est promotion de la santé et santé communautaire intégrée. La hiérarchisation des formations sanitaires, en termes de référencement, part de la base vers le sommet de la pyramide, les CSB constituant le niveau de base de référence des communautés. En termes de ressources humaines, selon les sources du ministère de la Santé publique en 2018, Madagascar compte un médecin pour 13 000 habitants, une sage-femme pour 10 200 habitants, lorsque les normes actuelles fixées par l'OMS sont de 23 agents de santé, quelle qu'en soit la catégorie, pour 10 000 habitants. Cette reproduction des modèles de systèmes de santé occidentaux, non supportés par les ressources publiques, a ouvert petit à petit la voie à toutes les formes de coopération, aussi bien d'ordre technique que financier. Pour illustrer, en 2019, le ministère de la Santé publique a estimé que 55,6% du financement du secteur santé provient de la contribution de l'aide multilatérale, 44,4% de l'aide bilatérale et 27,8% de la part des ONG. Ceci nous donne donc déjà une idée globale du paysage de la coopération concernant le secteur santé à travers trois principaux types d'acteurs, les organismes internationaux, les politiques bilatérales et multilatérales d'aide au développement et les associations humanitaires. Notons que les acteurs qui seront cités ici le seront à titre purement indicatif, sans considération de l'ampleur de l'aide ou de l'influence qu'ils pourraient avoir. Et ceci évidemment ne constitue pas une liste exhaustive. Le premier grand groupe d'organismes internationaux rassemble d'une part les organismes généralistes comme l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et d'autre part les organismes plus spécialisés, dont évidemment les institutions du système des Nations Unies, OMS, UNICEF, UNFPA. Il est à noter que le concept de district dans la pyramide sanitaire est l'héritage d'un modèle de pratique de santé promu justement par les Nations Unies à travers ces trois institutions. On peut également citer parmi les organismes spécialisés les fondations de solidarité, par exemple Save the Children, l'Alliance mondiale pour la vaccination, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose, le sida, la Fondation Chaîne de l'espoir. Ce groupe rassemble également les organisations dédiées à des maladies spécifiques, comme l'ONU Sida ou la Fondation Raoul Follereau. Après les organismes internationaux, vient le groupe des politiques bilatérales d'aide au développement. Cette politique est menée par les pays occidentaux et non occidentaux, comme le Japon. Et enfin, le troisième grand groupe qui vient compléter le tableau de la coopération internationale à Madagascar est celui des associations humanitaires. Nous retrouverons donc à la fois les associations et ONG humanitaires internationales professionnalisées, comme le Comité international de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, Médecins du monde. Ensuite, les ONG nationales des pays du Nord, anglo-saxonnes, germaniques, et d'autres regroupées également dans la coordination Sud. Donc voilà, de manière très globale, le tableau de la coopération à Madagascar. Et devant tous ces acteurs, dont les intérêts des uns s'imbriquent forcément avec ceux des autres, sans que les logiques d'intervention n'en soient pour autant les mêmes, nous avons demandé l'avis de plusieurs acteurs de la santé sur leur vision de l'éthique dans le cadre de la coopération, à travers une série de questions, mais également pour certains, à travers des entretiens. Nous avons ainsi réalisé un sondage de 11 questions auprès de 46 acteurs du secteur santé sur leur vision de l'éthique en coopération. Dès le départ, nous nous sommes heurtés à la compréhension du terme éthique par les répondants, souvent confondu avec morale, déontologie, code de conduite ou principe humanitaire. Par ailleurs, l'éthique était également jusque-là perçue comme tout ce qui allait à l'encontre du résultat final attendu. Les réponses ont donc été données dans une logique d'efficacité ou non de l'intervention. Donc, qu'est-ce que l'éthique dans le cadre de l'action humanitaire à Madagascar ? Les acteurs humanitaires peuvent être guidés par les manuels de référence internationale sur les standards de sphère et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour assurer l'efficacité et la qualité de l'aide apportée. Mais ces documents ne sont pas à proprement parler des guides sur ce qu'est l'éthique humanitaire. On sait avec le recul que les quatre principes humanitaires que sont l'humanité, l'indépendance, la neutralité et l'impartialité ont été l'objet de nombreux débats parfois controversés suite à des choix d'action et de non-action face à des situations dramatiques pour lesquelles il n'existait jusque-là aucun manuel ou guide. Les principes humanitaires sont propres à l'acteur humanitaire et les récipiendaires de l'aide ne sont pas toujours concernés. La réponse attendue n'est donc pas là non plus, puisqu'une coopération est une action forcément réciproque. Dans leurs propositions pour des actions humanitaires de qualité, les organisations regroupées au sein de Coordination Sud reconnaissent volontiers la place de l'éthique aux côtés d'autres thèmes principaux tels que la gouvernance, les ressources humaines, le cycle projet et la participation. Pour ne pas se perdre dans des débats philosophiques, nous avons décidé de reprendre les mots du professeur Jean-François Mattei ancien président de la Croix-Rouge française, qui résume de la manière la plus simple cette notion. L'éthique n'est pas une science exacte, mais un questionnement. Il s'agit donc, devant une situation particulière, de répondre à la question « Quelle serait l'action la plus juste ?» face au fondement même de l'aide apportée et face à ses différents enjeux. Et cette question est valable aussi bien pour ceux qui apportent l'aide que pour ceux qui la reçoivent. Ces enjeux se délibèrent à trois niveaux selon Hugo Slim dans son ouvrage sur l'éthique humanitaire, au niveau individuel, au niveau opérationnel et au niveau stratégique. La corrélation peut être faite du côté des acteurs de la santé. L'éthique individuelle serait celle des acteurs intimement en contact avec les intervenants humanitaires. L'éthique opérationnelle serait celle perçue par les différents échelons des autorités sanitaires. Et l'éthique stratégique, celle perçue par le niveau central du ministère de la Santé publique. Six acteurs de la santé nous ont ainsi partagé leur vision de l'éthique. Il s'agit majoritairement de médecins pour 57% des cas et travaillant dans le secteur public. 5 personnes ont accepté un entretien individuel sur le sujet, dont 3 faisant figure d'autorité sanitaire, centrale, régionale et de district, et dont nous respecterons ici l'anonymat. Pour 82% de ces acteurs en santé, l'éthique humanitaire est fortement liée aux connaissances avant d'être une valeur liée à la responsabilité. Elle devrait également être assimilée à des principes universels, absolus et immuables dans le temps et dans l'espace, à l'image d'une obligation contractuelle entre les différentes parties prenantes concernées par un projet. Seule une faible minorité de 6% estime que les considérations éthiques ne sont pas les mêmes pour chaque partie prenante et peuvent donc être issues de consensus et de compromis. Le sondage a également révélé que les tensions éthiques ont le plus de risques d'apparaître face à des activités d'appui logistique, ainsi que dès la phase critique d'évaluation initiale des besoins, selon 52% des personnes interrogées. Cela n'est pas étonnant, puisque ces personnes mettent la notion de participation en premier lieu dans leur formulation de leur vision d'une coopération idéale. La notion de participation devance alors pour les répondants la transparence opérationnelle et budgétaire dans la mise en œuvre de ces actions. Mais qui serait donc pour les acteurs de la santé le garant du respect de l'éthique dans la coopération? La responsabilité première reviendrait aux autorités sanitaires dans 70% des réponses. Ça, c'est la théorie ressortie du sondage. Mais dans la pratique, lorsque l'on a posé la question de qui aurait le plus d'influence dans la gestion des tensions éthiques, la réponse est sans appel. La première place influente revient au niveau opérationnel, l'ONG elle-même et le personnel de santé récipiendaire direct de l'aide. La première constituant selon eux l'interlocuteur favori du financeur et les deuxièmes les témoins directs des situations particulières sources de tensions éthiques. La crédibilité et légitimité des autorités sanitaires n'est donc pas ressortie de manière majoritaire dans notre sondage. Quant à l'approche idéale pour la question des tensions éthiques, 53% des acteurs de la santé privilégieraient une approche du haut vers le bas ou top-down contre 47% pour une approche du bas vers le haut. Nous y reviendrons un peu plus loin. La vision idéale des acteurs de la santé est donc une éthique à valeur impérative mettant en premier rang la participation des acteurs concernés dans toutes les prises de décision, avec comme principal garant le niveau opérationnel, regroupant à la fois les acteurs de la coopération et les récipiendaires directs de l'aide. Par contre, le mécanisme idéal, selon eux, pour la gestion des tensions éthiques, serait selon une approche du haut vers le bas de la pyramide sanitaire. Avant d'aborder les détails des entretiens que nous avons eus, il faut garder à l'esprit que les réponses n'ont pas la prétention de servir d'évaluation du contexte actuel. Nous sommes en effet restés sur des thèmes globaux, sans disséquer les mandats et les modes opératoires des parties aidantes. Toutefois, nous espérons que ce podcast puisse apporter un regard nouveau aux auditeurs concernant le sujet de l'éthique. Donc par rapport à la participation, La relation asymétrique entre un organisme d'aide et l'entité bénéficiaire est inévitable lorsque les pouvoirs publics peinent à remplir leur mandat. La participation mentionnée par les acteurs de la santé ici dépasse la simple consultation. Il s'agit bien de l'implication des capacités locales physiques et intellectuelles dans la mise en œuvre d'un projet commun en tant qu'acteur principal légitime de changement. Cette approche évite les écarts de paternalisme dépassés et remet la dignité humaine et l'autonomie au cœur de toute action de coopération. La notion de participation est d'ailleurs souvent associée à celle d'appropriation et de pérennisation dans la littérature. La participation est d'autant plus nécessaire lorsque la coopération se fait dans la vaste majorité des cas avec un acteur ne partageant pas les mêmes réalités sociales, économiques et culturelles. D'ailleurs, Michel Baumann, dans son article « Éthique et humanitaire », souligne la nécessité de la participation comme garde-fou nécessaire des valeurs occidentales et institutionnelles. Les acteurs de la santé interrogés ont également mentionné l'importance de la transparence dans leur vision idéale de l'éthique, ceci à travers un accès légitime aux questions stratégiques motivant chaque action et le pourquoi derrière les critères d'attribution des ressources. Au même titre que la participation, la transparence souffrirait également du fait que les parties aidantes estimeraient, parfois trop rapidement, selon les répondants, ne pas pouvoir trouver en face d'elles des interlocuteurs à même de comprendre le langage employé de certains aspects administratifs et financiers, à titre d'exemple. Autre aspect important du sondage, la vision de l'éthique attendue par les acteurs de la santé est fortement liée au leadership des autorités sanitaires. La simple initiative d'une action d'aide dans un pays qui en a besoin n'est pas en soi une garantie de qualité de l'action. Il appartiendrait donc aux autorités sanitaires de négocier au mieux les politiques sanitaires nationales pour qu'elles ne soient pas tout simplement une duplication des normes internationales occidentales, mais conformes à la réalité du pays dans laquelle elles s'implantent. D'ailleurs, pour l'OMS, la fonction principale du leadership est d'instaurer le changement, d'œuvrer vers un but auquel aspire collectivement la société. Ce but pourrait être celui d'un système de santé progressivement autonome et résilient. Les acteurs en santé ont mentionné dans le sondage la phase d'évaluation initiale des besoins comme phase critique aux tensions éthiques. Ceci rappelle la responsabilité d'impartialité de l'acteur humanitaire et le risque, tel mentionné dans la littérature, que cette phase dépende fortement des fonds attribués aux organismes de coopération et des priorités de l'entité donatrice. La gestion des tensions éthiques, selon une approche privilégiée du bas vers le haut par les personnes interrogées, fait sans doute référence aux capacités d'influence décroissantes à mesure que l'on descend vers la base de la pyramide sanitaire. Toutefois, cet avis n'est pas tranché puisque 47% privilégient une approche contraire du bas vers le haut. Tom Lee Beauchamp, dans son ouvrage sur la nature de l'éthique appliquée, mentionne cette approche du bas vers le haut comme méthodologie idéale, le bas étant le niveau des situations particulières sujet des questionnements éthiques et le haut celui des normes et théories. Les normes et théories seraient donc dans l'idéal motivées par des débats issus de circonstances particulières du niveau opérationnel. Voilà donc la description générale de ce qu'attendent les acteurs en santé sur les modalités de la coopération et ses défis à Madagascar. Nous conclurons en mentionnant deux points. Le premier est que dans une coopération, ce n'est jamais le programme en entier qui peut avoir un impact négatif, mais une partie de son processus de mise en œuvre. Il appartient à toutes les parties prenantes de procéder à une analyse a posteriori des actions menées sous la lentille de l'éthique bien au-delà de la simple efficacité. Cette analyse prend en compte les dimensions personnelles, les valeurs institutionnelles et les particularités spécifiques au contexte donné. Le deuxième point est que l'éthique n'est pas une équation absolue transposable à toutes les situations. La réflexion éthique s'entretient comme un muscle. Le ministère de la Santé publique, à travers son dernier plan de développement du secteur santé pour la période 2020-2024, mentionne parmi d'autres recommandations l'importance d'un enseignement davantage accentué sur la déontologie et l'éthique médicale. Et que les futurs leaders en santé de demain décident de s'engager dans le secteur public ou d'œuvrer dans le privé, La simple déontologie médicale ne suffit pas. Il faut plus que jamais nourrir la fibre de justice sociale. Sans celle-ci, il serait difficile d'évaluer correctement les enjeux éthiques devant toute forme de coopération.